Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. C'est vendredi, le week-end, demain, on est avec vous. Avec Gilles Gansman. Bonjour Gilles, comment ça
Bonjour
va?
Bonjour Valérie, bien et vous?
Bien, bah oui, la moitié, je crois que les trois quarts de la France sont sous la pluie, donc
oui.
Il faut rester à l'intérieur et écouter Sud Radio. On va parler de The Voice avec Bruno Berberès, le directeur de casting. C'est la finale demain.
Vous voulez que je vous pistonne
pour faire
pour
The Voice?
Pour la nouvelle saison?
Oui, non, je crois qu'il y a Patrick Roger et je crois qu'il y a
Patrick Roger
qui a très envie avec Cécile, Cécile de Ménibus, on a très envie que Patrick participe à The Voice. Non, moi je chante très très mal.
Ou avec Cécile en duo, ça pourrait faire un
aura,
joli duo.
Qui Cécile et Patrick?
Bah oui, c'est,
oui, c'est une bonne idée.
Les Stone et Chardin.
On sera avec Rémi Pernelet pour les dernières infos médias et puis notre libraire Gérard Collard pour les livres à lire, les bons conseils de lecture de notre libraire. Et puis à 11h, on reviendra sur la situation intenable du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. En ce moment même, des manifestations ont lieu, en particulier à Paris, où toute la place de l'Étoile est bloquée par des policiers. Ça va être très compliqué, on y reviendra à 11h. Commençons avec les audiences et les bronzés qui sont le carton de la soirée. Ah. 4 millions, plus de 4 millions 727 000 téléspectateurs. C'est les bronzés 3, Amis pour la vie. Pourtant, il était un peu moins bien que les autres.
Oui,
mais,
c'est bien payé, je trouve.
Mais toujours, toujours envie de revoir et de se détendre. Nadine, pardon, est en ligne avec nous. Bonjour Nadine.
Oui, bonjour Valérie.
Oui. Bonjour, vous avez il pleut chez vous ou pas? Vous
appelez de... Ah non, pas du non. tout. Là, pour le moment, on a un joli rayon de soleil qui passe par là.
Vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Bah, tant mieux, profitez-en. Alors, vous avez regardé quoi, vous, hier?
Moi, j'ai plutôt basculé sur Envoyé spécial parce que voilà, c'est une émission que j'aime bien. Élise Lucet qui l'anime est une journaliste que j'apprécie aussi. Voilà, après le sujet était quand même assez terrible et je pense qu'il faut prendre du recul par rapport à tout ça et malgré tout, vu ce que vous venez de dire, je pense fortement aux policiers qui sont qui sont dans un métier, d'un côté on dit c'est les forces de l'ordre certes, mais c'est quand même, il faut pas oublier, des gardiens de la paix, donc c'est un peu de c'est un peu de deux extrêmes, mais je pense que, enfin moi pour moi c'est des gardiens de la paix et il faut pas forcément non plus leur jeter la pierre
Ouais, c'est leur métier hein, de maintenir l'ordre et
exactement ouais. Ils font un métier
difficile. Donc vous les soutenez?
Oui, moi je les soutiens. Je suis infirmière. J'ai fait partie aussi des métiers qui étaient compliqués un petit peu là dans les mois qu'on vient de passer et qui restent compliqués dans les mois à venir, c'est sûr. Mais bon, voilà, je les soutiens. Les images que j'ai vues hier, ça porte à réflexion, c'est clair.
Absolument.
Mais bon. Voilà. Donc,
Bon. Et donc, Envoyé spécial, c'est ce que vous avez regardé hier, vous, pour vous avez choisi ça plutôt que les bronzés. Vous aviez pas envie de vous détendre plus que ça.
Si, détendre aussi, pourquoi pas. Ouais. Mais bon, j'ai pas opté en tout cas pour cette chaîne-là.
D'accord. écoutez. Merci de nous avoir appelés, puis bravo à vous en tout cas, parce qu'on ne cite pas assez les infirmières, on parle du personnel soignant, mais c'est vrai que vous faites un métier difficile, un très beau métier, qui est un métier de dévouement, et j'en profite pour saluer les infirmières, les infirmiers qui ont été mobilisés, qui ont été aussi en première ligne pendant le Covid, et qui au quotidien travaillent pour une rémunération assez scandaleuse. Voilà, je fais mon coup de gueule maintenant,
oui.
mais 28e rang quand même des pays industrialisés, c'est absolument scandaleux. Voilà.
On ne les applaudit plus à 20h, Valérie, et leurs conditions n'ont pas changé. Donc,
oui, mais on va faire un débat lundi sur le sujet, justement, pour savoir un petit peu ce qui peut changer. Alors, Envoyé spécial, 1 531 000 téléspectateurs, ça n'a pas très très bien marché, 6,9% d'audience. En deuxième position, c'était France 3 pour l'épisode en rediffusion de la série Cassandre. Ça marche toujours, 4 447 000 téléspectateurs, à signaler un bon score pour Apprendre ou à laisser, le jeu de Cyril Hanouna, mais qui finit à 21h36, 1 million, près d'1,5 million téléspectateurs, et puis Quotidien qui est toujours proche des 2 millions et qui marche très très bien. Voilà, allez, on passe au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
On en parlait avec notre auditrice Valérie. Évidemment, la colère monte chez les policiers et menace de ne plus faire d'interpellation. Et comme un symbole, hier, dans toute la France, ils ont posé au sol leurs menottes.
À Marseille, Bobigny, Toulouse ou encore Lille, ce jeudi, dans toute la France, ce même geste symbolique pour exprimer la colère des policiers.
On est ici présents, menottes au sol, parce qu'on s'est fait insulter. Parce qu'on se fait insulter par notre ministre de l'Intérieur. Parce que la police aujourd'hui, elle est suspecte de tout.
Et malgré justement une rencontre entre les syndicats et le ministre Christophe Castaner, qui n'a pas réussi à éteindre l'incendie qu'il a quand même lui-même allumé, sur BFM, pour Yves Lefebvre, il est secrétaire général du syndicat SGP Police, et ben vous allez voir, Christophe Castaner, c'est devenu l'ennemi numéro un.
Très clairement signifié à Christophe Castaner qu'il avait perdu la confiance des policiers. Les policiers considèrent légitimement que depuis lundi fin d'après-midi, Christophe Castaner les a lâchés en pâture. Christophe Castaner a failli dans ses fonctions de représentants, de ministres des policiers républicains français en leur retirant ce contrôle de tête. Donc Christophe Castaner a reconnu des erreurs, il a reconnu effectivement le soupçon avéré, c'est une erreur, il l'assume pleinement.
Alors dans cet affrontement, les procédures d'arrestation qui sont mises en cause, alors le ministère préconise désormais le taser. Alors je ne sais pas si vous avez vu ce sujet qui était assez humoristique quand même hier dans Quotidien. Ils ont ressorti une démonstration qui leur avait été faite au cours d'un salon, une démo avec un taser, avec un commercial très motivé.
La dissuasion est très importante. Et en entendant ça,
oui,
ça calme la situation. Donc 84% de personnes qui disent bon ok c'est bon j'arrête, etc. Après il y a des gens qui continuent et à ce moment-là il faudra les taser. Donc là, je suis là devant la personne et je lui dis bon monsieur maintenant vous arrêtez s'il vous plaît, vous arrêtez. Et là je dis taser, taser, taser et c'est parti et je tire. Voilà. Là, ça va toujours pas. Monsieur s'il vous plaît, vous arrêtez, s'il vous plaît, vous bougez pas. Top, top. Et là ça calme.
Et là, ça calme.
Et là, ça calme, ouais. Enfin, sauf que les policiers expliquent que le taser ne fonctionne pas toujours, qu'il y a des défis. Enfin, bon, bref. C'est compliqué aussi.
Oui. Puis, comme expliquait Eric Revel dans la matinale de Patrick Roger, ça ne va pas empêcher de dire il a fait du taser alors que je n'avais rien fait, ou j'ai eu un taser et j'avais des problèmes cardiaques. Je ne suis pas sûr que ça arrange les choses. L'autre thème dans les médias, le racisme, Valérie, évidemment. Dans le journal de 20h de France 2, ils ont mis un coup de rétro dans le viseur. Nous partons pour les années 50. Vous savez, il y a eu une vague de travailleurs immigrés pour reconstruire la France. Et l'opinion publique était à l'époque interrogée par la télé.
Je crois qu'il ne faut pas mêler les races.
Si vous aviez une chambre à louer et qu'un Chinois venait se proposer pour l'occuper, ça vous gênerait.
Vous voyez pourquoi ?
Vous n'aimez pas ces gens-là.
Nous ne sommes peut-être pas racistes, mais en habitant à côté de ces gens-là, nous le devenons. Moi, je le deviens.
Un échange lunaire sur CNews, Valérie, entre Gilbert Collard et Mounir Majoubi. Petite leçon de la pratique de l'ironie par Gilbert Collard pour mépriser son interlocuteur.
Cette vidéo, elle est très grave, mais en même temps très attendue de la part de l'extrême droite.
Oui, bien sûr.
Personne ne vous accuse.
Oui, mais on est méchants.
Personne ne vous demande de vous justifier.
On est très méchants, oui.
Moi, j'ai écouté cette vidéo hier soir, avant de venir. J'ai écouté ce qu'elle a essayé de dire, mais personne...
Qu'est-ce que ça fait du bien de voir un saint homme ?
Oh. Il n'y a pas de saint, justement. Il y a des gens
qui
essayent simplement d'éviter que d'un côté...
C'est pas trop dur d'être bon du matin au soir.
Je vous ai laissé parler, je vous ai laissé faire des insultes ou des...
Je vous insultais, moi ?
Non, vous avez fait des évocations.
Ah non, attendez, je vous insulte à quel moment ? Non, stop.
Eh bien, restons dans l'ironie et les sarcasmes avec Michel Onfray qui était sur CNews et il réagissait sur les statues des Boulonnais.
Oui, on parlait tout à l'heure de totalitarisme. Moi, j'ai écrit un livre sur Orwell et ça faisait partie du projet de 1984, de réécrire l'histoire, d'effacer des visages, de les faire remonter à la surface. Et de la même manière qu'on essentialise, on est incapable d'historiciser aujourd'hui. On est incapable de dire, mettez ça dans le contexte. On va pas se mettre à détruire la grotte de Lascaux sous prétexte que les hommes donnaient probablement des baffes à leurs femmes. Et à un moment donné, il va falloir arrêter cette espèce de délire.
Alors ça a beaucoup buzzé, hein. Donner des baffes à leurs femmes, on va détruire les grottes de Lascaux. Il y a eu beaucoup d'ironie et beaucoup de gens qui ont soutenu Michel Onfray. Le débat est ouvert, madame.
Voilà. Faut-il détruire les grottes de Lascaux, c'est ça ?
Oui, pour des raisons de féminisme.
Allez, on est en ligne avec Bruno Berberès. Bonjour Bruno.
Bonjour, comment va ?
Ça va et vous ? Où êtes-vous ?
Je suis dans le noir.
Vous êtes où ? Vous êtes au boulot ?
Alors je suis très loin de vous. puisque vous êtes supposé représenter le Sud, entre autres. Et moi, je suis à Nancy. Je suis à la musique, à l'école, la Musique Académie Internationale. C'est là où j'interviens de temps en temps pour coacher des talents qu'on retrouve de temps en temps dans The Voice, comme Lilian Renaud, par exemple. D'accord, donc, quand vous m'avez proposé d'être là, je me suis dit, je veux pas. Vous allez me voir tel que je travaille, en fin de compte.
Et c'est
10h15 du matin et je fais travailler des chanteurs.
Et vous faites travailler des chanteurs.
Regardez, devant moi, il y a un jeune homme qui s'appelle Joris avec ses musiciens. Vous le verrez peut-être un jour dans The Voice, s'il accepte, c'est pas sûr. Hein.
Voilà. C'est pas sûr. C'est pas le rêve de tout chanteur de passer dans The Voice.
C'est pas forcément une histoire de rêve ou pas, c'est une histoire de chemin plutôt.
Oui.
Vous voyez
Comment
de alors chemin, vous êtes de voix.
Je le rappelle que vous êtes le directeur de casting de The Voice. C'est vous qui sélectionnez tous ces candidats. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe justement. Donc là, vous nous expliquez que vous êtes en train justement de coacher des gens, mais ça n'a rien à voir avec The Voice. Votre métier, c'est ça,
non,
c'est
ça
le coaching vocal, mais ça fait partie de votre métier.
Ça fait partie d'un ensemble. Donc nous sommes toute une équipe à ITV qui produit l'émission. On est une petite dizaine encadré avec Pascal et Mathieu qui sont les producteurs de l'émission. Donc cette année avec le Covid et le confinement, ça a été un petit peu différent, pas plus compliqué mais différent. On a fait beaucoup de visio, beaucoup de, comme tout le monde, beaucoup de Zoom, etc. pour repérer les talents et les auditionner à distance. Puis voilà, d'habitude je suis beaucoup sur le terrain dans les concours de chant, dans les festivals et tout. Mais enfin, comme tout a été annulé, il a bien fallu qu'on trouve, comme tout le monde, qu'on s'adapte. Et pourquoi pas, c'est plutôt cool de s'adapter et puis d'avoir des nouvelles pistes. Et puis, on trouve des talents un peu partout, y compris à Sud Radio. Vous voyez ce que je veux dire, Valérie ?
Absolument, absolument.
On en trouve même à Sud Radio, alors qu'on vient faire un interview, qu'il y a une pause publicitaire et qu'il y a quelqu'un qui me fait écouter, qui...
Maria Doyle, qui était notre chouchoute, cette femme non-voyante qui a une voix magnifique. Et effectivement, il se trouve que je la connaissais. Je vous ai dit, il faudrait quand même que vous l'entendiez. Et elle a fait un très beau parcours, Maria.
Ah oui, elle est arrivée en demi-finale.
Magnifique. J'ai pensé à vous tout le temps. Je pensais à vous deux tout le temps. Je me suis dit, si jamais ils disent du mal de The Voice, je vais leur dire, c'est vous qui m'avez procuré le talent. Donc tout ça pour dire à vos auditeurs qu'on trouve des artistes partout.
Partout. Et comment vous l'avez trouvé cette saison de The Voice ? Vous avez
vocal,
pas de mauvaise, c'est sûr.
Ça tombe bien, The Voice vocal.
Ouais.
L'année dernière, elle était un tantinet urbaine. Là, elle est très vocale.
Ouais.
J'ai adoré. Et puis en plus, j'ai adoré les réactions du public. Parce que même là, je vois entre les 12 demi-finalistes et les 4 finalistes, les gens ne savaient pas qui choisir. Donc moi, j'aime bien quand le public est dans l'embarras.
Et quand vous voyez samedi dernier, il y a eu beaucoup de critiques sur les choix qui ont été faits par les téléspectateurs en disant qu'il y avait peut-être eu de la triche, pourquoi il n'y avait pas Tony, pourquoi il n'y a pas tel ou tel chanteur. C'est les critiques habituelles
habituelles.
Pensez
et vous
pensez que Tony aurait peut-être mérité d'être là, non ?
Évidemment, comme Tom a mérité. Comme Maria, comme tout le monde. Mais... Oh là là, mais vous savez... Vous savez, plus le niveau est bon, quelle que soit l'émission, c'est vrai aussi à l'Eurovision, c'est vrai partout, plus le niveau est bon, plus les polémiques sont aiguës et importantes. Ça, c'est un bon signe. Plus il y a de polémiques, plus les gens sont... Regardez, même sur un canapé dans une famille, les gens arrivent à ne pas être d'accord. Alors, comment voulez-vous que tous les Français soient d'accord ? Donc, moi, plaisir quand les gens font la gueule, râlent et tout ça, c'est plutôt rigolo.
Alors, Ce matin, vous nous certifiez qu'il n'y a pas de triche dans les votes, Bruno ?
Vous imaginez si je vous réponds oui. Non, mais franchement, c'est quoi
bonne
cette
réponse.
Question
Bonne réponse, bonne réponse. Si, c'est bidonné.
Vous êtes au resto, vous dites, il est frais mon poisson. Non, il n'est pas frais mon poisson.
Ça veut dire qu'il y a peut-être de la triche, alors.
Mais vous êtes pervers, vous. Mais non, il n'y a pas de triche. Attendez, écoutez, regardez-moi bien, là, même dans le noir. Je suis un mec sportif. Je suis un mec sportif, j'adore la compète, j'adore le sport, quoi. Donc le sport, ça va pas du tout avec la triche, et c'est impossible. Il y a aussi un huissier. Je comprends même pas pourquoi vous me demandez ça. Pourtant, je vous aime bien.
Il fallait qu'il pose la question. La saison prochaine, il y aura une prochaine saison de The Voice. Vous le savez
J'espère
déjà.
J'espère bien.
C'est pas encore signé.
Sinon, je suis au chômage.
C'est... Ah bah oui, non, ça c'est Comment? Sûr. Mais c'est signé ou pas encore
bah, Nico va vous le dire samedi soir.
Ah, donc ça veut dire que c'est signé.
On le saura. D'accord. Et, alors, est-ce que... Oui, allez-y, Gilles.
Ouais, Bruno, je voulais vous faire écouter quelque chose de The Voice en Angleterre. C'était en 2014. La vidéo que vous allez voir a été vue par 29 millions. Je vous poserai une question après. Écoutez. We've come too far to give up. Alors, c'était en 2014, c'est Anna McLucky qui chante Get Lucky et elle chante avec une harpe. Donc, je voulais savoir, est-ce que Gustine est arrivée par hasard dans vos castings ou vous aviez vu également en Angleterre cette chanteuse alors, avec la harpe? Est-ce que vous inspirez parfois des The Voice à l'étranger?
Vous êtes vraiment, vraiment pas sympa et pas gentil. Alors, puisque vous êtes un expert de The Voice, je vais vous renvoyer à la première saison avec Pia, qui avait déjà une harpe, et ça, toc.
Ah oui, c'est
c'était
vrai.
C'était dans l'équipe de Bertignac. Alors, vous voyez, dans The Voice...
Il est incollable, voilà, ce Bruno Berberet.
Ça fait deux fois que vous êtes dans le poteau. Vous avez une troisième question?
Non, mais je voulais savoir.
On va l'envoyer à Koh-Lanta. Vous
vous inspirez parfois de ce que vous voyez à l'étranger? Vous pensez que
jamais,
le niveau est différent
jamais,
par rapport...
Jamais, je vous assure, jamais. Non, mais vraiment... La seule fois où on a voulu s'inspirer de ce qu'on avait vu à l'étranger, c'était avec la nonne en Italie et on n'a jamais trouvé. Donc voilà. Donc vous savez quoi ? On ne cherche pas de profil particulier, on cherche des musiciens, des chanteurs. Et puis la vie nous met en face d'une harpiste, la vie nous met en place d'une Irlandaise ou d'un jeune compétiteur qui fait ses études de sport à New York, ou de Abby ou de Gustine, enfin j'en sais rien, de tous les autres, et de Luc Arbogast et de Kenji. Et de Slimane, c'est la vie qui nous met en face, mais on recherche pas forcément ce genre de profil. Là, vous voyez, dans mon école, il y a des gens qui vont certainement, s'il y a une prochaine saison de The Voice, t'as vu, je suis doué, hein, qui vont certainement le faire. Mais c'est leur talent avant tout, et derrière, dans 100% des cas, il y a des histoires et il y a des particularités. Je vous l'assure.
Rappelez-nous combien il y a de candidats chaque année, de gens qui se présentent pour The Voice, pour participer à l'émission.
Entre les gens que l'on trouve et les gens qui se présentent, entre 10 et 12 000, je ne sais pas, même plus.
Incroyable. Et vous écoutez tout le monde?
Ah non, j'ai tout la poubelle.
Non, j'écoute personne. Allez hop, c'est à votre tour, Valérie.
Évidemment qu'on écoute tout le monde. Alors, je vais vous faire une confidence, parce qu'il n'y a pas de secret.
Ouais.
En demi-finale, Terence avait envoyé sa candidature sur son MyTF1.
Ouais.
D'accord. Sur les quatre finalistes, bon, alors Maria, je l'ai rencontrée grâce à vous. Gustine, on l'a trouvée sur les réseaux sociaux pour les quatre finalistes. Abby, on l'a vue dans un open bar, dans un open mic dans un bar. Et vous vous souvenez d'Aurélie Conaté, la Starac?
Oui, absolument.
Et plein d'autres choses, camping et tout. Ben, c'est elle qui me l'a signalé. Vous voyez, comme quoi. C'est un peu partout.
C'est ouais.
Tom Rocher, on l'a vu sur les réseaux sociaux. Et il reste le quatrième, c'est Antoine. Antoine, c'est The Voice Belgique. Mais on l'a, parce que comme The Voice Belgique, il l'a fait il y a très, très longtemps, il n'a pas été très loin. On a vu ces dernières postes qu'il a fait. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez, divers. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de recette.
Avez un chouchou? Vous avez un chouchou? Vous avez un pronostic?
Non, mais je vous assure, vous me connaissez maintenant.
On vous pose des questions. Ouais, ouais, ouais.
Non, mais évidemment que j'en ai des chouchous. J'en ai quatre.
Alors, ça, c'est de la langue de bois.
Non, mais ça, je ne suis pas langue de bois, vous vous demandez. Je suis comme un papa ou une sage-femme et vous me demandez de choisir. Non, je ne sais pas. Et je suis très content que ce ne soit pas moi, ni les coachs, ni personne.
Ouais.
Après, c'est le public. De toute façon, vous savez quoi, le public, on a beau avoir des chouchous, le public, il n'en fait qu'à sa tête.
Ouais.
Eh bien, moi, je fais un pronostic. Je me risque, Valérie, on s'en parlera.
Allez-y.
Ça va être Abby, évidemment, qui a une émotion, qui a un chant, qui a une personnalité, qui a quelque chose qui crève l'écran. Je trouve que c'est un personnage incroyable, d'une sensibilité incroyable. Et on sent quelqu'un pour qui la chanson change sa vie, change ce qu'il est.
Ouais.
Et c'est quelque chose de fort.
Eh bien, on verra et on sera donc
devant... C'était quoi le prénom ? J'ai pas entendu le prénom.
Abby.
Abby, Abby, c'est oui, Abby, bah comme Gustine, hein, et puis comme Antoine, et puis comme Tom. Mais bon, il y a voilà. quatre univers différents. Maintenant, c'est posez-vous vrai. Plus la question, j'ai envie de plus terminer ouais. là-dessus, lequel des quatre, et peut-être les quatre, j'en sais rien, peut transformer l'essai et faire un succès discographique? Ça, c'est la, ouais. la question aussi.
C'est la vraie question. Après, les, oui, après le vote du public, il est sur l'émotion, sur la prestation qui
surtout,
va être jugée samedi. Absolument. Merci
et voyez,
beaucoup.
Ce matin,
beaucoup.
Je vous ouais. fais des gros bisous. Merci de m'avoir aidé. Et puis aussi,
merci
vous avez d'autres
vous.
Idées cette année. Hein.
Et eh ben, on va se mettre.
Il y a
Patrick Roger qui présente la matinale avec Cécile de Ménibus en duo. D'accord. On va les coacher, puis on viendra vous les présenter. Merci beaucoup Bruno Berberès d'avoir été avec nous. Bravo pour cette saison de The Voice et ce casting toujours au top. On se retrouve dans un instant nous avec Rémi Pernelet. Salut Bruno, merci.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Et on retrouve Rémi Pernelet. Bonjour Rémi.
Bonjour Valérie, bonjour Gilles.
Journaliste, bonjour, spécialiste des médias. Alors que fallait-il retenir cette semaine?
Bah écoutez, cette semaine on a des infos. Il y a le retour de Plus belle la vie, déjà en inédit. Je pense que beaucoup de fans l'attendaient. Ce sera le 29 juin sur France 3, son horaire habituel. Et donc, les comédiens ont commencé à tourner déjà depuis le 26 mai. Je rappelle que la série, le feuilleton s'était interrompu le 17 mars pour cause de coronavirus. Et donc, en fait, à partir du 29 juin, tous les feuilletons, en fait, ont retrouvé leur chaîne habituelle, puisque sur France 2, Un si grand soleil est déjà revenu depuis le 1er juin, et que Demain nous appartient revient lundi, le 15 juin, à un horaire un petit peu différent, 19h10 au lieu de 19h20, c'est à cause de l'info, le JT qui commence à 19h45 au lieu de... Ouais. Au lieu de 20h, hein, parce qu'ils font une petite émission spéciale,
quoi.
Et vous savez qui sera notre invité lundi, Rémi? Ça sera Fabienne Cara qui viendra nous parler de Plus belle la vie.
Bah oui.
Qui sera en direct avec super. Nous lundi. Ouais. Voilà.
Elle va nous raconter effectivement dans quelles conditions ont repris les tournages. Jean-Marie Bigard fait encore parler de lui.
Bah oui, parce que vous savez qu'il est intervenu dans l'émission de Cuisine, Tous en Cuisine avec Cyril Lignac. Et bon, très bien, sauf qu'il avait un t-shirt sur lequel il y avait écrit en très grand faites-vous tous, qu'on ne peut pas dire le mot.
Allez tous vous faire enculer. Si, on le dit, on le connaît parce qu'on le voit toujours avec Jean-Marie Bigard.
Vous connaissez le mot quand même, donc, Rémi, rassurez-moi.
Pardon?
Mais il a raison, on ne dit pas, il a raison.
Chacun ses choix. Hein.
Ah, moi je l'aime bien.
Évidemment, il y a eu beaucoup de protestations de téléspectateurs à propos de ce message affiché à 19h30 devant tous les publics. Jérôme Anthony est intervenu pour dire, écoutez, on n'a pas trop pris son t-shirt le lendemain. D'ailleurs, j'ai remarqué, il y avait Cyril Lignac et Jérôme Anthony. Oui. Et c'est pas Cyril Lignac qui est intervenu, c'est Jérôme Anthony.
Je croyais que c'est Cyril Lignac, d'accord.
Ouais. Et ensuite, il a répondu. Jean-Marie Bigard s'est exprimé sur son compte Facebook. Il a dit ce t-shirt, c'est un message ou une menace. Tout dépend comment tu le prends. C'est le mien. Je fais toutes les émissions avec depuis 6 mois. Et il faut penser, j'ose penser que chez M6 on a la TV. Après une longue journée de travail, j'apparais donc à la télé avec mon t-shirt de travail. Et il rajoute, si ce bout de tissu était gênant pour la chaîne, on aurait pu me demander de le changer, ce que j'aurais fait.
En plus, il était chez Hanouna dans la semaine, dans le jeu à prendre ou à laisser, avec ce même t-shirt qu'il ne quitte pas. Donc c'est assez.
Mais je pense qu'il y a peut-être, Valérie, un côté plus familial dans l'émission Tous en cuisine avec Lignac, fait que c'était un petit peu plus gênant peut-être. Autre chose, je voulais vous donner peut-être les audiences pour le retour de Jean-Pierre Pernaut, parce que je trouve que il a été absent très longtemps. Jacques Legros le remplaçait avec succès. Et lundi, on s'est un peu inquiété parce qu'en fait, il a fait pratiquement 500 000 téléspectateurs de moins que Jacques Legros. Et puis alors, depuis mardi, l'audience du JT de 13h est à 5,7 millions, 5,8 millions. Il fait entre 3 et 500 000 de plus que Jacques Legros. L'audience, le retour de Jean-Pierre Pernaut, et gagnant.
Les gens ont retrouvé
Je pense que le premier jour, ils ne le savaient pas, tout simplement. Oui, même si on l'avait dit, nous, il restait quelques personnes qui n'étaient pas au courant en France.
Oui. Alors, revenir sur ce qui s'est passé hier, Philippe de Villiers a accusé sur Twitter le CSA de censure, puisqu'il a été déprogrammé de l'émission C'est à vous. Le CSA a répondu. Revenez un petit peu sur cette affaire.
Oui, absolument. Alors, donc, lui, Philippe de Gennevilliers, était programmé et il a été déprogrammé de C'est à vous, ça arrive. Et alors, il a sorti des tweets en expliquant que je viens d'apprendre que mon invitation chez C'est à vous ce soir vient d'être annulée par le CSA au motif que mon propos mérite la censure. Il y a eu évidemment une réponse du CSA. Le CSA, d'abord, rappelle que le Conseil exerce toujours des contrôles a posteriori, jamais a priori, jamais avant. En aucun cas, le CSA n'est intervenu. Et puis France 5 également, qui rappelle, qui précise des choses, en expliquant que ce n'est pas du tout une censure, c'est une question de problématique de temps de parole. Plus précisément, évidemment, il y a le cadre des élections municipales en ce moment, et dans ce cadre, c'était un peu délicat. Et d'ailleurs, la production de C'est à vous a précisé qu'ils étaient en train de chercher, de proposer une autre date pour inviter Philippe de Villiers. Après sa sortie, je ne sais pas s'il va accepter, mais bon, mettre en cause le CSA parce que on est invité puis débooké, comme on dit, c'est-à-dire annulé, franchement, il y a des tonnes de... Ça arrive à des tonnes d'auteurs, d'hommes politiques. Ouais. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup d'auteurs et d'hommes politiques qui eux-mêmes déprogramment des invitations parce que, par exemple, ils ont une émission plus intéressante en face. Donc, je trouve que c'est se faire un peu de buzz sur le dos de la déprogrammation.
Merci Rémi, on n'a pas le temps tellement de développer, on aura peut-être l'occasion d'y revenir en début de semaine prochaine. Il y a d'autres infos, en particulier le Canal+, hein, qui le 22, réouverture des salles de cinéma, ne diffusera aucun film.
C'est ça, pour expliquer qu'ils défendent le cinéma, ils en profitent pour tacler un peu le gouvernement en demandant des mesures pour aider Canal.
On pourra en reparler, c'est sympa pour les abonnés. Hein. Franchement, franchement, c'est juste du marketing et de la communication. C'est que les abonnés qui payent n'aient pas de film ce jour-là. C'est genre, alors je trouve ça dingue. Moi.
On y reviendra. Merci Rémi, merci Gilles. On a notre gagnant, c'est Mathieu. Bonjour Mathieu.
Bonjour Valérie, je suis très émue de vous avoir au téléphone. Mais super.
Vous êtes un fan de Sud Radio, vous nous écoutez tout le temps.
Oui, je suis pas aussi assidu que je le voudrais parce que je travaille à l'extérieur, mais oui, je vous écoute souvent et je suis vraiment très émue de vous avoir au téléphone. Là, ça me...
Vous nous appelez d'où ?
De Limoux, voilà.
De Limoux, d'accord, connu pour sa blanquette, voilà.
Voilà.
Alors, vous avez gagné donc une semaine dans un club Bellambra, mer, montagne. Vous savez ce que vous allez, où vous allez aller ? Vous avez une préférence ?
À chaud, je dirais plutôt la plage parce que je suis situé dans la montagne un peu, mais je ne réalise pas et je suis vraiment très très content, quoi.
Bon, vous allez alors.
Merci à toute l'équipe de Sud Radio.
On est content de vous faire plaisir, Mathieu, Bellambra, donc numéro un des clubs de vacances. Vous allez pardon ?
Je vous enverrai une carte postale.
Ah bah oui, j'espère que vous nous enverrez une carte postale et vous nous raconterez comment ça s'est passé. Merci à vous, merci de nous avoir appelés et bravo à vous Mathieu et merci d'être fidèle à Sud Radio. On se retrouve nous dans un instant avec notre libraire Gérard Collard. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Et avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, et comme tous les vendredis, Gérard Collard est là avec nous. Bonjour Gérard, comment ça va ?
Bonjour, ça va, et vous ? En pleine forme ?
Très bien, en pleine forme, j'ai lu plein de choses, vous aussi j'imagine ?
Non.
Non, vous n'avez rien lu. Vous n'avez rien lu, bon.
Non, j'ai rien lu.
Vous n'avez rien lu, bon, au revoir.
Au revoir. Non, je vais vous... proposer des polars, complètement originaux, différents, comme j'en ai absolument jamais lu. C'est-à-dire, il y en a un qui s'appelle... l'auteur, c'est Léonie Swann. Swann, vous savez, comme le cygne en anglais, vous avez vu, je suis bilingue, S-W-A-2-N. Et il y en a un qui s'appelle Gray. Et alors, Gray, c'est en pocket. Hein, c'est chez Neil, celui-là. Il est en grand format. Alors, on est à Oxford, Cambridge. Il y a une espèce d'université. Il y a une espèce de fils d'aristocrate un peu prétentieux, insupportable. Lui, il est spécialiste de la grimpette. Vous savez, ceux qui vont dans les immeubles grimper, risquer leur vie pour chacun son truc. Hein. Il grimpe en haut de la tour de Cambridge et il tombe. Là, le découvre un prof de philo qui est assez... assez spécial. On dit que c'est un accident, hein. Et puis au fur et à mesure, il se rend compte qu'il y a quand même un problème, que c'est pas forcément un accident. Puis le truc, c'est que ce gars a comme compagnon un perroquet. Et alors ce perroquet, vous allez voir, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que l'enquête que va mener ce philosophe, là, ce prof, il est un peu neuneux, hein, le prof, hein, il est un peu niais. Mais alors celui qui mène l'enquête, pour ainsi dire, et qui a toujours les bonnes questions, parce qu'en plus c'est un perroquet qui parle, et ben c'est vraiment le perroquet qui va dénouer l'affaire. C'est dénouer l'affaire. Vous savez, alors comme ça, ça va être incroyable. C'est vraiment pas mon genre de truc. Et c'est rempli d'humour. Vous rentrez dans l'histoire, c'est à éclater de rire. C'est passionnant, c'est palpitant. Puis dans cette époque où tout est un peu anxiogène, où tout le monde se prend au sérieux, où, eh bien, moi, j'ai passé 200 pages avec un plaisir. Je me suis amusé comme un fou. Et ça m'a surpris. C'est quand même pas mal, non?
C'est à la fois divertissant, suspense, original.
Ouais, c'est un vrai polar avec un vrai suspense. Alors du coup, j'ai appris qu'il en avait fait paraître un en pocket, en petite collection, qui s'appelle « Qui a tué Glenn ?». Alors Glenn, c'est un peu le même scénario. Glenn, c'est un berger, hein. Et le berger, il a des moutons, des brebis, mais lui, il a bien éduqué ses brebis et ses moutons, et il est assassiné. Et les brebis, décident de savoir, de découvrir qui a tué leur berger, Glenn. Et vous allez voir, c'est pareil, c'est génial, c'est drôle, c'est captivant. Et le gars, il arrive à vous faire de l'humour, mais aussi à être pris. C'est pas, vous savez, c'est un exercice aussi absolument incroyable, c'est tout en finesse. C'est voilà, moi je suis encore, je suis pas encore revenu de mon d'avoir été captivé par ça, et j'attends quand même un troisième, parce que je veux savoir. Il a déjà fait les moutons et le perroquet, et moi j'ai un animal préféré, c'est l'autruche, donc je me dis qu'il va trouver une autruche qui et là je suis preneur tout de suite. Mais allez-y, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu réticents, ouais, en disant oh oui, c'est quoi cette histoire, et vous allez voir, vous y croyez. C'est-à-dire que pour moi, maintenant que je regarderai un perroquet ou un mouton, une brebis, je vais lui parler en lui exposant mes problèmes et tout, et je me dis que mes brebis, elles vont me résoudre mes problèmes. Allez-y, c'est vraiment c'est, quand on dit que c'est original, là c'est vraiment quelque chose d'original et de différent comme vous n'avez jamais lu.
Donc il s'appelle l'auteur s'appelle Léonie Swann, comme un signe, voilà. S-W-A-N, ouais. Qui a tué Glenn, donc avec une couverture assez marrante avec des moutons, c'est dans le livre de poche. Et puis le premier dont vous nous avez parlé,
c'est
le
Gray.
Titre Gray.
G-R-A-Y,
voilà.
C'est Neil.
Voilà. Et dans l'actualité, figurez-vous que c'est le hasard, mais il y a une nouvelle traduction d'Autant en emporte le vent qui vient de paraître chez Gallmeister par Josette Chiche-Portiche. Donc allez-y, faites un pied de nez à tous ces censeurs et ces conservateurs. Allez lire le livre de Margaret Mitchell, parce qu'on connaît effectivement le film, mais le livre est
pas,
le livre est, c'est une formidable fresque. C'est toute une époque.
C'est une histoire d'amour, hein.
C'est une histoire d'amour, mais c'est une galerie de portrait tout à fait étonnante. Et puis c'est effectivement l'arrivée de l'industrialisation, le sud esclavagiste. Enfin bon, c'est l'histoire, et
c'est le portrait d'une époque.
C'est le portrait d'une époque.
C'est une époque qui peut déplaire à beaucoup de gens, ce que je peux comprendre, mais elle a existé, cette époque, et on ne peut pas la transformer selon nos désirs. Donc c'est la grande truc, hein,
donc,
c'est de vouloir transformer les...
Oui, d'adapter. En tout cas, voilà, nouvelle traduction chez Gallmeister d'Autant en emporte le vent. Profitez-en pour relire ou pour lire ce roman. Alors, quoi d'autre ? Oui ?
Justement, pour tomber sur cette truc, vous savez, il n'y a pas longtemps, aux États-Unis, on a empêché Hachette de faire paraître la biographie de Woody
Allen. Vous me le piquez, je voulais
alors
faire.
Je vous laisse,
allez-y.
Je vous dis le titre, non, je vous laisse. Oui. Ça s'appelle Soit dit en passant, et c'est chez Stock, je vous laisse faire. Allez-y.
Non, moi, je c'est vrai que c'est encore là aussi un livre qui a une histoire compliquée, puisque vous l'évoquiez, aux États-Unis, l'éditeur américain qui devait le publier a renoncé. En France, ce sont les éditions Stock qui ont poursuivi leur désir de publier Woody Allen. C'est une autobiographie assez épaisse, il y a beaucoup de pages. C'est passionnant. Oui. Moi, je suis... Alors oui, il y a la polémique, oui, il y a tout ça, mais...
Faut pas oublier, oui, bien sûr.
Faut pas oublier. Il s'en explique ce qu'il dit. Alors, on peut entendre les deux points de vue, hein. Lui, il explique que c'est une vengeance de Mia Farrow à partir du moment où il est parti avec Sunny, qui n'est pas sa fille, qui est sa fille adoptive, mais avec qui il ne vivait pas. Donc on comprend un petit peu, on comprend, enfin, on a un autre aspect des choses. Puis surtout, c'est, si vous aimez Woody Allen, vous allez adorer ce livre, parce que c'est son histoire, c'est son humour, c'est écrit à la première personne, c'est quelqu'un qui se confie assez peu. On découvre, par exemple, moi j'étais sidérée de découvrir qu'il avait lu son premier livre à 20 ans.
Oui.
C'est...
Exactement.
Puis c'est le Brooklyn des années 40, c'est ses débuts comme écrivain de gags, enfin, c'est assez formidable hein, cette biographie.
Puis on retrouve vraiment le Woody Allen des livres, des films, hein. C'est-à-dire c'est plein d'humour, c'est léger, mais derrière la légèreté, il y a plein de choses. Et je trouve que moi, ça a été vraiment aussi une surprise, c'est-à-dire que j'y allais pas à reculons, mais avec la polémique, je me disais qu'est-ce que ça va donner. Et en fin de compte, c'est le portrait d'une époque, d'un type quand même assez hors norme, hein, quand même assez extraordinaire. On peut contester bon une partie de sa vie, ça c'est chacun son truc, mais en tant que réalisateur et en tant qu'artiste, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas éviter, quoi. C'est vraiment qui a marqué son époque.
Et c'est un livre qui fonctionne ou pas, ou est-ce qu'il y a une réticence?
C'est incroyable. Ah non, ouais. C'est un des plus gros. Là, depuis qu'il est paru, il y a 2-3 jours, c'est pour nous, en tant que libre, enfin chez moi, en tant que libraire, c'est la plus grosse vente du moment. Hein. C'est-à-dire, là, c'est sans arrêt, on a été en rupture de stock très très vite. Et c'est plutôt réconfortant, je veux dire, parce que ça veut dire que les gens sont moins bêtes qu'on le pense. C'est-à-dire qu'on veut nous le faire croire, c'est que les gens savent faire la différence.
Séparer l'homme de l'artiste, voilà. comme on a l'habitude de dire, mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est compliqué quand on aime Woody Allen et qu'on entend les accusations qu'il y a eu contre lui avec la campagne qui a été faite par son fils Ronan Farrow. Oui, on peut être troublé. Après, on peut aussi avoir envie de lire le livre, d'avoir envie de connaître la vie de Woody Allen et puis sa version des choses. C'est-à-dire, ce qu'il dit sur Mia Farrow est assez terrifiant. Donc, il y a un côté parfois aussi règlement de compte à OK Corral, mais ce qu'il dit est assez factuel sur la psychologie de Mia Farrow qui avait adopté 14 enfants. Il y en a deux qui sont morts, qui se sont suicidés. Enfin, franchement, c'est un bouquin que je vous recommande. Si vous aimez les films de Woody Allen, vous allez adorer ce livre.
Et je pense que les gens, maintenant, au niveau de l'information, commencent à avoir le décodeur. C'est-à-dire qu'avant, les gens acceptaient tout comme ça. Et je pense que les gens commencent, avec les années passant et les mois passant, à décoder les informations comme ça, qui viennent sans arrêt. Et ils commencent à décider par eux-mêmes. Ce qui est quand même plutôt, moi, je crois que c'est plutôt optimiste. Enfin, je suis plutôt optimiste à ce niveau-là. Ouais. Et que c'est moins dramatique que ça pourrait l'être. Quoi.
Alors, ça s'appelle Soit dit en passant, Woody Allen, c'est chez Stock, autobiographie. Le titre anglais était pas mal, c'était About Nothing, c'était à propos de rien. Quoi. C'est traduit par Soit dit en passant, mais c'était pas mal aussi. Quoi d'autre, Gérard?
Alors, moi, j'ai un des beaux livres de cette année. Pour moi, c'est un des plus beaux livres de l'année. C'est Le rouge n'est plus une couleur de Rosie Price chez Grasset. La couverture est magnifique, vous ne pouvez pas le voir, mais vous le verrez sur le podcast. C'est une tulipe noire sur un fond jaune, c'est très très joli. Je voudrais saluer aussi la traductrice, parce que c'est hyper important pour un livre, et le style est absolument très agréable à lire. Alors c'est un sujet difficile, alors c'est ce que je dis en ce moment, les gens ont besoin d'évasion, de sujets pas trop lourds, un peu légers après les deux mois de confinement, mais passer outre. Alors c'est l'histoire de Kate, hein. Kate c'est une fille de la middle class américaine. Anglaise, ça se passe à Londres. Elle a un copain, mais un copain plutôt un frère. C'est plutôt, elle sort pas avec. Hein, ils sont vraiment en fusion. Lui, il est fils d'une grande famille anglaise, avec beaucoup de fric, des maisons à pas possible et tout. Et il la présente à sa famille. Il y a une fête. Elle se fait violer par un de ses cousins. Et vous allez voir comment, moi, en tant que garçon, en tant qu'homme, elle va arriver avec beaucoup de délicatesse, de finesse psychologique à essayer de nous faire comprendre ce que ressent une jeune femme qui est violée. C'est-à-dire, à la fois, vous allez voir ce Kate qui est dans le déni, c'est-à-dire qu'elle se dit, faut pas, c'est peut-être de ma faute, alors que c'est pas du tout de sa faute. Hein. Ce besoin, elle n'existe plus. Quoi. Il y a un moment, elle décroche complètement. Et puis, parallèlement à ça, il y a l'histoire de la mère de ce jeune homme, enfin, pas celui qui l'a violée, mais de son copain, qui a vécu la même chose, mais à des générations de différence. Et vous allez voir comment ces deux femmes vont complètement réagir et vont aussi céder. Mais c'est pas que ça, hein. C'est aussi l'histoire d'une, où il se passe plein de choses, d'une famille anglaise, un peu, moi je trouve, un peu en fin de race, un peu dégénérée, qui a du fric, mais qui sait pas quoi faire de leur pouvoir et de leur fric. C'est, vous savez, comme ces films anglais, c'est à la fois charmant, cruel, précis. Moi, c'est un livre qui va me rester parce que j'ai encore dans la tête ces personnages et cette jeune femme-là qui souffre et qui va réussir et qui va va tout faire pour s'en sortir. Alors, est-ce qu'elle s'en sortira? Ouais, ça, ça sera à vous de le décider à la fin du
de découvrir,
du roman.
Pas de le décider, de découvrir.
Oui. Oui, c'est peut-être plus décidé que...
D'accord. Voilà. Bon, n'en dites pas plus. Oh, le titre, rappelez-nous le titre.
Ça s'appelle « Le rouge n'est plus une couleur » de Rosie Price, c'est chez Grasset.
Chez Grasset, donc voilà. Vous nous garantissez un bon moment avec
Ah oui, c'est très beau. Voilà. Vous avez encore autre chose?
Allez-y.
On a encore le temps?
Allez-y.
Alors moi, je voudrais remettre un niveau, enfin un truc dont on avait parlé beaucoup, c'est pour les enfants, c'est en Pocket Junior, que j'adore, et pour moi c'est un des beaux jolis contes de ces dernières années, c'est « La pâtisserie Bliss » de Kate Littlewood, c'est en pocket, c'est l'histoire de cette pâtisserie. Ouais, alors les parents tiennent une pâtisserie un peu particulière, c'est-à-dire que on peut faire des choses magiques avec les gâteaux, il y a des recettes magiques, les parents s'en vont en week-end et les enfants vont s'emparer du carnet de recettes magiques et ils vont faire des recettes. Alors les recettes, elles sont un peu spéciales, c'est par exemple, il y a des recettes où quand vous mangez le gâteau, vous dites toute la vérité sans rien cacher.
Sans filtre.
Et là, voilà, sans filtre. Et puis c'est pareil pour l'amour, on va tomber amoureux, c'est délicieux, il y a 4 ou 5 volumes, vous donnez ça à vos enfants, ça marche, mais alors tout de suite, c'est vraiment, ça accroche et c'est plein d'humour, plein de charme, ça fait rêver, puis c'est léger en cette époque où tout est lourd, où souvent dans les livres pour enfants, il y a la sclérose en plaques, le divorce, la ségrégation, enfin c'est très... Oui. Et là, ça va leur permettre de voir le monde à travers des lunettes un peu roses. Mais
c'est à partir de 9-10 ans à peu près.
Ouais,
hein,
c'est
quand
ça, 9-10 ans, ouais. C'est pas cher, il y en a plusieurs en pocket junior.
Il y a plein de tomes en plus. Non
ouais, il y a plein de tomes, donc vous allez voir, c'est plein de rebondissements, les parents qui vont essayer de récupérer la situation parce que ça devient incroyable, ça part dans tous les sens. Et puis moi, je comprends pas qu'on n'ait pas fait un film de ça, parce que je trouve qu'il y a une série à faire sur ce livre, parce que c'est très joyeux.
La pâtisserie Bliss, l'auteur s'appelle Catherine Littlewood, et c'est dans une collection poche, donc pas très cher. Un petit mot sur un petit livre, alors moi je suis absolument pas fan de surf, mais ça s'appelle Petit éloge du surf de Joël de Ronay. Alors Joël de Ronay, c'est celui, alors c'est le papa de Tatiana, hein, de Ronay, que tout le monde aime bien, et alors c'est paru chez Bourin, et aux éditions François Bourin, et alors il raconte l'histoire du surf et comment lui, à la fin des années 50, il a importé le surf en France. Il est étudiant et il est l'un des premiers à avoir surfé sur la côte basque. Et donc, il nous raconte l'histoire un petit peu de l'arrivée du surf en France, la sensation, ce que c'est que des rides. Maintenant, il y a des surfs, des endroits où on peut surfer artificiellement. Ouais. C'est au-delà d'être sur une planche. C'est-à-dire que j'ai découvert que c'était une philosophie. On est proche de la nature, on est... Et en plus, c'est des fanas donc, qui parcourent le monde entier pour aller découvrir les meilleurs spots, Hawaï, enfin tous les endroits. Comment on dompte une vague? Moi, je me suis régalée à lire ce petit livre, alors que, a priori, voilà, c'est les petits livres, vous savez, que vous prenez, vous ouvrez et puis vous vous laissez emporter par ce qu'on vous raconte. Ça s'appelle Petit éloge du surf, c'est aux éditions François Bourin. Et l'auteur, c'est Joël de Ronay. Merci Gérard, on a tout noté. On va passer une bonne semaine grâce à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci Gérard, prenez soin de vous. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour commenter l'actualité.